à l'aune de la deuxième partie de cet entretien, toujours avec Myriam et Paul. Et donc, nous pénétrons dans le pavillon bleu, qui est juste derrière la gare ici à Genève, pour une visite sélective, sélectionnée des œuvres des livres.
Voilà. Alors, on passe le seuil et on est tout de suite accueilli en face à l'autre bout par l'autoportrait. Un autoportrait assez grand, dessiné avec du pastel gras sur la tapisserie qui est en relief, qui donne une structure. Et en fait, il a posé le miroir par terre, il a accroché les feuilles sur le mur et ça fait un autoportrait de quelqu'un vu depuis en dessous et en plus les yeux quasiment fermés puisqu'il a regardé dans le miroir. Ça donne quelque chose un peu d'étrange, voilà.
Ça, c'était important pour vous de commencer par, un peu comme dans le film Le Chien Andalou, où on ouvre l'œil et on le coupe, pour changer les angles, changer les regards, et dire d'ores et déjà, en entrant, vous qui entrez finalement, laissez à l'extérieur les regards... conventionnel.
Un petit peu. En tout cas, c'est pas un portrait conventionnel.
Alors, exactement. Tout à fait. Ouais. Ça annonce la couleur, pourrait-on dire.
Oui.
Alors, allons-y. On vous suit. Guidez-nous.
Voilà. On va vers le monde fantastique, justement, où, pour faire un monde fantastique, il faut des ingrédients, il faut des plantes semi-mécanique, il faut créer des personnages, des acteurs, comme une espèce de diable, une espèce de prêtre, une espèce de... Voilà, des personnages. Et avec ces éléments, c'est-à-dire on crée les ingrédients, et avec ça, après... On crée ces mondes fantastiques c'est pas des images qui tombent du ciel, c'est des images qui sont construites avec des éléments qu'on a cherché, créés dans le temps, et qu'à un certain moment on les fait rassembler sur une feuille.
Ça veut dire qu'il y a une temporalité, c'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver ses outils.
Oui, alors là on a forcé la temporalité, elle est pas juste.
D'accord.
Mais simplement pour dire, dans les dessins fantastiques, le fantastique, c'est pas simplement quelqu'un qui s'assoit et l'inspiration elle vient. En fait, il a créé des outils ou des éléments, une boîte pleine d'outils ou des éléments, et après avec ça on jongle ou on crée des mondes. Voilà.
D'accord, j'ai compris. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'une certaine manière une sorte d'héritage qui est revendiqué là-dedans, qui pourrait aller de la... On a parlé beaucoup de bande dessinée.
Oui.
Moi
je pense. Oui, il était très intéressé par la BD. Ouais. Et bien informé.
Ouais. Alors, là, on voit que c'est quand même beaucoup du crayon, du fusain.
Oui, alors, on a beaucoup de crayons, c'est d'ailleurs là où il est vraiment très fort. Et après, l'utilisation de soit du pastel, soit de la gouache pour amener la couleur, voire, et ça c'est intéressant, au milieu, peut-être après on va l'approcher, il a un dessin qui est fait à l'ordinateur. C'est-à-dire que lui, comme graphiste, il connaissait vraiment très bien l'outil graphique de l'ordinateur. Et il a su l'utiliser au point que, avec une liberté, comme s'il avait un crayon dans la main. Et on a tout d'un coup un dessin qui est fait par l'informatique, mais qui a toutes les qualités d'un subtil d'un aquarelle ou d'un gouache ou voilà.
Okay. Alors allons-y, on va s'en approcher. Ah oui, effectivement. Alors effectivement, ici on a l'apparition de la couleur et on est face à ce dessin fabriqué à l'ordinateur.
Oui. C'est ça. Alors qui est lui-même aussi de nouveau fabriqué par des éléments scannés, des parties dessinées scannées.
Comment est-ce qu'on peut...
Alors, là, peut-être juste là, on est tout de suite... Il a lui-même, voilà, comme avant j'ai dit, il s'est créé son vocabulaire. Alors, un élément qui revient plusieurs fois, c'est l'homme connecté. Carrément avec des câbles qui rentrent dans le cerveau. Et C'est-à-dire que justement, c'est le lien à la technologie qui quasiment à un moment donné met l'homme au service, on ne sait plus trop bien qui est commande. Voilà. Là, on a justement ces hommes connectés qui ont des câbles qui rentrent.
Également certains aveuglés, je vois.
Et certains aveuglés, voilà. Ouais. Et après, tout à coup, on a un bonhomme de complète poésie, d'un conte d'enfant, on ne sait pas d'où il sort, qui a un chapeau, qui est en fait un chapeau, qu'est-ce qu'on pourrait dire, pingouin ou non,
ou
oiseau,
mer,
voilà. Voilà. Et
ce personnage, est-ce qu'il invite à l'envol, à dépasser? Parce que là, on a un univers un petit peu dystopique, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une aspiration à quelque chose d'autre. Il y a une forme de combat, d'une certaine manière. On l'a vu et on le verra tout à l'heure, il y a une forme politique dans son art. Est-ce qu'on pourrait imaginer également qu'il y a une envie d'envol ou de se sortir peut-être d'un marasme ou d'une situation d'aliénation?
Non. En tout cas, avoir l'ouverture sur un monde des possibles, fantastiques, qui est le contraire de monde contraignant.
Voilà. Parce que justement, cet apport du fantastique, est-ce que pour l'artiste, est-il là pour dépasser des choses, transcender des choses, ou pour dénoncer d'autres?
Moi, je pense, voilà, envie de rêver, mais très vite, avec un regard critique, mortante, voilà.
Et puis un constat dur, finalement.
Ouais, un constat dur, ouais. Okay. Ouais. Mais voilà, je pense, voilà, envie de rêver, mais très vite, la lucidité qui reprend dessus.
On continue ?
Oui.
Alors, nous sommes ici dans une nouvelle section.
Voilà, une galerie de portraits, on les a mis ensemble. Alors, il a des portraits qui sont un peu aussi pour la création de personnages, hein, c'est... des personnages. Il y en a quelques-uns qui sont dessinés avec un modèle, mais la plupart sont des portraits qui, voilà, inventés, si on veut dire, mais qui là, on a un personnage, on ne sait pas si c'est...
Ce sont des personnages qui sont, selon vous, issus de la réalité ou tous vraiment issus d'un monde complètement imaginaire?
Alors justement, là, si on regarde celui-là, on ne sait pas d'où il vient. Mm-hmm. On a un sentiment qu'il vient un peu d'un autre monde qui nous visite. Tandis qu'après, tout de suite à côté, on est face à un personnage qui est, il vient dans le réel. Mais avec des traces de craie par-dessus qui donnent une certaine violence.
Tout à fait. Des couleurs aussi comme ça qui sont extrêmement vives. Oui. Et puis on voit quand même que les regards sont des regards très singuliers quand même, hein, partout. On a des regards qui pourraient nous plonger dans une sorte de contemplation mais inquiète. On a des regards que l'on pourrait ressentir comme des regards de souffrance, ou en tout cas d'interrogation intérieure, de cheminement intérieur. Il y a l'homme couché qui lit, hein, qui est là aussi, entre le rêve et la réalité. C'est assez marrant, cette dualité rêve-réalité qui est a priori toujours présente, et puis on a cette...
Alors, c'est pour ça, peut-être, là, voilà. C'est bien si on le regarde ensemble, parce qu'il est assez significatif.
Ouais. On va juste le décrire encore.
Voilà, on a un personnage, les yeux fermés, et on a son crâne qui est ouvert, un carré, et de l'intérieur du crâne sort une pyramide blanche, qui est elle-même la pyramide, elle est remplie avec plein des câbles qui sortent, et des personnages de un peu extraterrestres, un peu. Hein. C'est-à-dire, justement, le rapport, je suis ici, et j'invente un monde, ou je vais vers un monde inventé. C'est-à-dire, dans ma tête, dans mon crâne, je peux visiter des mondes qui existent ou qui n'existent pas.
Qui ne sont pas accessibles.
Voilà.
Et peut-on dire que dans ces... Y en a-t-il une peut-être qui serait plus un autoportrait, ou est-ce qu'il y a un peu d'un autoportrait dans chacune d'elles?
Alors, il a un autoportrait de dérision. C'est celui-là. C'est on dirait, un Dali avec une couronne.
Eh oui, exactement.
Alors, c'est parce que lui-même, il disait toujours... moi, je ne veux pas rentrer dans le système de l'art, je ne veux pas être dans des galeries connues, etc. Voilà, il a un refus, mais comme tout artiste, au fond de soi-même, on aimerait quand même être reconnu. Et c'est pour ça, je pense, ça, c'est un autoportrait, parce que, voilà, je suis Dali, je suis le roi Dali. Mm-hmm. Ça veut dire, au fond de moi, évidemment, quoi. Tout le monde aimerait quand même être le roi d'Ali, mais en même temps, voilà, on s'en moque complètement.
Très bien. Ouais. Alors poursuivons. Là, on arrive vers de nouveau.
Voilà, alors cet autoportrait qu'on a décrit au début. Peut-être on va aller vers cette série. Là, on est dans une série qui est significative pour un travail artistique. Il avait un projet de dessin, non, de film d'animation. Il a créé comme un storybook dessiné, et en créant ce projet, qu'il n'a jamais réalisé comme film, mais en dessinant le projet, il a tout à coup, il en a résulté des éléments plastiques forts qu'il a développés après davantage. On a par exemple la pyramide de la civilisation qui est une pyramide faite avec des maisons, téléviseurs ou je ne sais pas quoi, avec des yeux dessus, et qui sont entassés, voilà, un peu comme les déchets qu'on empile, et finalement ça construit une pyramide, et en plus cette pyramide, elle va carrément vers un grand sexe de femme. Ça, c'est un autre élément plastique fort qu'il a développé. Regardez, là on a...
Oui.
C'est toute l'humanité qui rentre dans ce tunnel sexe. Voilà. Alors, on a différents éléments. Là, on a aussi ce monde avec des pyramides, des usines, des... voilà, tout, là, à travers ce projet pour ce film d'animation, il a tout à coup des éléments plastiques qui sont développés et qui sont devenus autonomes, qui sont même voilà, là, carrément aboutis dans une peinture vraiment soignée jusqu'au bout.
Donc là, on voit qu'il y a quand même un rapport au cinéma également. On parlait tout à l'heure du rapport à l'écriture.
Alors, voilà, on revient à Émile qui a vraiment touché tous les domaines. Hein. Ouais. Voilà, il avait aussi un projet de cinéma. Ouais. Il a même rêvé une école de cinéma à un moment donné. Et alors qu'il faisait la musique, qu'il faisait la poésie, qu'il faisait le dessin.
Et ce qu'il y a d'intéressant également, c'est de voir comme toutes ces différentes disciplines s'interpénètrent.
Voilà,
on voit là effectivement le storyboard avec les petites vignettes. Tout est dans tout finalement.
Tout est dans tout, ouais. Exactement.
Ouais. Génial. Allez, continuons.
Voilà, alors là on est dans la partie, qu'on pourrait dire, politique ou révolte. Mm-hmm. Hein. C'est-à-dire justement expression du regard critique sur le monde. Ouais. On a grand tableau, voilà. On reconnaît les deux acteurs, Sarkozy avec Merkel.
On voit qu'il y a une question européenne qui joue, on voit les étoiles.
Voilà, et une grande foule de personnes autour. En haut, en principe, il est parti de François Hollande, ouais. C'était pendant les votations. Il a commencé à peindre le portrait, en grand.
Ouais.
Et après, à un moment donné, il a carrément plaqué un masque un masque blanc.
Ouais, il y a une silhouette plus grande que... Bon, moi, évidemment, ça m'a fait penser à Munch, quand même. Hein,
ou ouais,
alors,
c'est vrai.
Oui, alors, d'accord.
Ouais, d'accord. Hein, ouais.
Ouais, oui. Oui, tout à fait.
OK.
Là, on a de nouveau Simon, écrit.
Alors là, on a des personnages qui sont avec une dentition, des têtes rondes, vertes. et des sourires qui font peur. On dirait presque
des rires stupides.
Exactement, voilà. Alors, pourquoi? Là, il y a une question,
c'est une
question politique, là aussi.
Ah, oui, ah, forcément.
Plus sociétal, je dirais.
Au sociétal, voilà.
Voilà, de cet homme qui va, enfin, avec leur costard, qui vont dans la direction de cette société capitaliste, en quelque sorte, et au final, c'est un peu ironique. Et ouais.
Finalement, c'est le sourire de Roquin.
Voilà.
Ah, complètement. Voilà. Ouais. Inquiétant, en tout cas. Ouais. Inquiétant. Hein. Et les regards également ne sont pas si bienveillants que ça. Ouais.
Peut-être un petit dessin qui est très subtil. Ah, ouais. On a un personnage obèse, dessiné avec des traits très fins, tout simple, et en bas, tout en petit écrit, pauvre et obèse. Voilà.
Effectivement.
Voilà, c'est ce décalage. Ou ce personnage qui manipule le monde, c'est-à-dire il a des groupes de personnages, quasiment comme si, voilà, si lui diriger le monde.
Oui, et puis finalement, peu importe l'individu, là, ce sont des quantités qui sont déplacées, sans qu'on ne s'enquière de...
Ouais. Exactement. Ou ça, celui-là, ces dessins, où on voit, probablement, on pourrait même dire c'est lui qui est devant l'ordi, qui crée des mondes virtuels, et derrière lui, il a un être en chair, en os, qui est en train de perdre le son. Ouais.
Et là, on ne voit pas d'ailleurs, c'est assez rare, on ne voit pas la tête de ce personnage-là, parce que souvent les têtes apparaissent. Hein, donc il y a quelqu'un qui est abandonné, en tout cas à son sort. Ouais.
Et après, on aboutit à un monde tout autre, le cocon, la famille. Ça pourrait être lui, un autre portrait, avec des chats qui grimpent sur le dos, qui l'entourent.
Et là, c'est vrai qu'on a aussi
les amis.
Oui, les amis, puis c'est en aquarelle plutôt.
C'est en aquarelle,
c'est plus doux. Les coloris et les matériaux sont plus doux, effectivement.
Ça, c'est son fils avec lui, derrière.
Là, on a des images extrêmement bienveillantes, extrêmement douces. Ça tranche radicalement avec ce qu'on a pu voir et ce qui fait face.
Mais oui, c'est forcément... Et là, on arrive à encore un dernier groupe, je dirais surréaliste, spirituel. On a un ange qui chute, qui a la tête en bas, entouré comme ça dans une brume, et entouré d'une multitude de personnes. Ou autrement, une madone, mais une madone très spéciale, on dit, avec des câbles, avec des... une madone un peu, de nouveau connectée, un peu. Et ce qui est très intéressant, c'est selon comment on regarde, elle a les yeux fermés ou les yeux ouverts. Ça dépend de vous, comment vous la regardez.
Et ça, c'est bien parce que ça met en avant les représentations et ce que l'on en fait chacun de nous.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Et voilà, et l'expo se termine là-dessus. Je vous propose qu'on sorte pour les derniers mots concernant cette exposition et pour que vous nous donniez peut-être des retours des personnes qui sont venues visiter pour le moment. Alors, ces retours.
Alors, on est très content parce que justement il a des amis, des proches qui découvrent quelqu'un qui a lutté dans la vie et il a de l'énergie, c'est pas quelqu'un, nous on la connaissait quand même aussi beaucoup déprimé, et là dans l'art il était vivant. Et il nous donne un beau retour.
Et pour vous, j'imagine que c'est satisfaisant de se dire que la trace laissée est celle également de quelque chose qui a un flux, qui invite les gens à la réflexion, qui invite les gens à la lutte, qui finalement les font partager un chemin qui a été certes difficile, mais pas vain.
Oui, oui, c'est le partage de la difficulté, ça c'est sûr. Ouais. Mais... on dirait à travers la possibilité de l'art, on peut vivre avec.
Tout à fait.
Où on peut faire quelque chose.
Il a su sublimer, en fait, en quelque sorte, cette dépression, cette tristesse, cette colère envers la société à travers l'art. Et il a pu en créer quelque chose, en fait. Il a su la tourner d'une façon créative et nous laisser avec, en quelque sorte, tout ce trésor. Et puis c'est pour ça aussi que c'est important, en fait, de l'exposer, c'est important de le partager.
Très bien. Ouais. Une dernière question, avant de terminer cet entretien. Pour vous, l'art, quelle fonction doit-il justement remplir? Est-ce cette transmission des savoirs d'une certaine manière? Est-ce finalement ce travail mémoriel également? Qu'est-ce que l'art doit être, selon vous?
Bon, l'art, vraiment, globalement, c'est une manière pour comprendre le monde, pour le travailler, pour lui donner forme.
Et puis pour l'artiste, je pense, c'est aussi exprimer des choses qu'on n'arrive pas toujours à mettre avec des mots. Et plein de gens, ils sont venus, ils disaient aussi qu'en voyant ces dessins, ces tableaux, on arrive à comprendre beaucoup plus sur la personnalité d'Émile, sur son monde. Et c'est des choses qu'en fait, avec les mots, même si il était très doué avec les mots, il n'arrivait pas toujours à nous transmettre, en fait, cet univers. Et en regardant ses dessins, ses œuvres, ça parle beaucoup plus, au final. Et donc, je pense que pour l'artiste, c'est aussi une façon d'exprimer des choses qu'on n'arrive pas toujours à mettre.
Très bien. Myriam et Paul, je vous remercie beaucoup du
temps
que vous avez pris.
Pour
et on rappelle,
visite.
Ce sont, avec beaucoup de plaisir, les œuvres d'Émile Andersfuren-Biget. Mm-hmm. Et puis alors, on renvoie les personnes qui sont intéressées de découvrir ces œuvres-là et pourquoi pas de venir assister à une prochaine exposition, puisque celle-ci se termine demain, ici au Pavillon Bleu, mais certainement qu'il y en aura d'autres. Alors, on les renvoie au site internet www.emilanderfuren.com.
Oui.
Et Émile Andersfuren, on l'appelle EMILANDERFUREN.com. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.